Les richesses de notre territoire sur Flotteur FM.
Nouvelle émission sur Flotteur FM à cœur ouvert. Ils sont d'ici, ils sont de Clamecy, des alentours. Vous les connaissez. Avec vous, ils participent à l'animation de la Cité des Flotteurs et des Vaudionnes. Pour vous, les bénévoles associatifs viennent au micro de Flotteur FM parler d'eux, se dévoiler davantage, vous faire partager ce qu'ils aiment, vous faire mieux connaître leurs activités, vous donner envie de les rejoindre. Loisirs, sport, culture, société, sur Flotteur FM et au fil des semaines, découvrez ceux qui font la richesse de notre territoire, leur présent, leurs envies, leurs réflexions, portraits, souvenirs.
À cœur ouvert. Et avec nous aujourd'hui, c'est pas n'importe qui quand même, on a quand même une élue de haut rang, de haut vol, si je peux dire. Nadia Sologoub.
Je sais pas si on peut dire comme ça.
Nadia, bonjour, je vais vous appeler par votre prénom.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est un
bonjour.
Petit luxe que je vais me payer parce que...
C'est beaucoup plus facile.
Votre collègue, monsieur Joly, je peux pas l'appeler Patrice Toucourt quand même, ça serait...
Mais lui, il a un nom de famille qui est beaucoup plus simple que le mien, alors ouais, c'est pour ça.
Mon ancien collègue d'ailleurs. Alors vous savez quoi? Eh ben, notre invité d'aujourd'hui a changé de train pour aller au Luxembourg. Pas la radio, puisqu'elle est heureusement aujourd'hui à nos côtés, devant moi plus exactement.
Merci pour votre invitation.
Et, merci. Et pas non plus à Neuvy-sur-Loire, où elle a été il y a peu de temps élue maire, vu qu'à Neuvy, il n'y a même plus un fantôme de gare.
Ah si, il y a encore le bâtiment de la gare. Bon, et bon. Alors, nous tenons, je vous interromps, beaucoup à notre gare, qui est une gare tout à fait historique, puisque
oui.
C'est la gare du train Jouef.
Oui, c'est ça, oui. C'est...
La gare, voilà.
C'était le modèle PLM.
Le modèle de la gare du train Jouef.
Ne me lancez pas là-dedans, parce qu'il y en a pour la nuit.
On y tient.
Ah, c'est pas le commun des mortels qui peut prétendre choisir un ou une déléguée pour représenter son département. Non, Nadia Sologoub, qui a aussi été vice-présidente de la CCLN, Loire-Hainaut, ancienne formule, j'entends bien, a été élue sénatrice pour 6 ans par ses pairs, les grands électeurs. Les grands électeurs, les conseillers généraux, adjoints, maires, etc.
Voilà.
Coupé court comme ça. Cette accession à un siège du Sénat se fait donc au suffrage indirect.
Absolument.
C'est bien ça. Mais elle veut et tient par-dessus tout à être près des collectivités locales choisies démocratiquement par le peuple.
Absolument.
Les mairies, les municipalités. Dans le même temps, siège aussi au Sénat le Morvandieu Patrice Joly, élu dans les mêmes conditions après avoir présidé aux destinées du département de la Nièvre.
Absolument.
On va le saluer au passage aussi, pendant qu'on en est à saluer.
Bonjour Patrice.
Donc, si la ligne éditoriale de cette émission évite tout invité politique, et bien que la sénatrice, dont au sujet de laquelle on cause en ce moment, hein, c'est pas très français ça, mais enfin bon, bien qu'elle soit ligérienne à deux pas de cône, nous avons dérogé à la règle et pensé qu'il serait intéressant de savoir comment on devient sénateur ou sénatrice, en l'occurrence, surtout quand on n'est pas intime des rouages d'un parti politique national, ce qui n'empêche pas d'avoir sa petite idée sur la question, bien entendu.
Bien sûr.
C'est évident. Avec ses collaborateurs, assistants parlementaires Brigitte Galopin et Frédéric Lajeunesse, et la secrétaire Christelle Seigné.
Voilà.
Comme les actrices, puisqu'il y a deux sœurs qui sont actrices, Mathilde et je ne sais plus l'autre, Seigné. Enfin bon. Elle fait la navette entre la Nièvre et Paris, tout en parcourant les quelques 312 communes. 312 ou
309, parce qu'il y a quelques fusions.
Temps.
Oui, il y a
ah ben
quelques
je retarde.
Communes nouvelles. Ouais.
Donc 309 communes nivernaises. Un sacré challenge et un emploi du temps très chargé. Un surbooking, pour parler anglais, bien que ce ne soit pas des mots très, très agréables à entendre.
Très nivernais, pas très nivernais.
C'est pas nivernais.
Pas
voilà. Mais ô combien passionnant, me disiez-vous tout à l'heure en antenne, sachant que toutes les collectivités ont les mêmes problèmes et qu'en même temps, elles ont chacune leur spécificité.
Tout à fait.
Au pluriel. L'intérêt est de faire remonter les infos et les souhaits jusqu'en haut lieu et si possible, jusqu'à celui dont le portrait orne toutes les mairies de France et de Navarre. Elle a tout de même trouvé le temps de venir une nouvelle fois en Vaudionne et en particulier à Flotteur FM. Donc Nadia Sologoub, vous avez été surpris de votre élection il y a 3 ans, parce que ça vous a interloqué un petit peu.
J'étais extrêmement surprise. Je ne pensais pas du tout être élue au Sénat. J'avais proposé une candidature un petit peu différente, puisque hors parti politique, hors soutien d'un parti politique, je n'avais pas vraiment non plus fait campagne dans les villes. J'étais plutôt allée, d'abord, j'avais décidé de me présenter très tardivement, donc en binôme avec Christophe Degnaud. C'était d'ailleurs un petit peu Christophe, plutôt le maire de Hanoï, qui avait eu cette idée. Et on voulait vraiment proposer un binôme pour défendre nos collègues élus de petites communes et de ruralité et vraiment porter ce message-là. Alors bon, j'imagine qu'après, comme dans toutes les élections de ce niveau, il y avait eu des tractations un petit peu politiques, mais j'avoue qu'elles m'avaient un peu échappé parce que moi, j'ai surtout fait des kilomètres de mairie en mairie et toujours...
Sur le terrain.
Oui, et c'était vraiment extrêmement chaleureux et sympathique, mais... Je crois que la veille même des élections, il y avait eu encore un titre dans le journal qui disait « 3 candidats pour 2 sièges » et j'étais pas dans les 3 qui étaient cités. Voilà, donc j'étais la 4e, mais voilà, bon, ça arrive comme ça.
« Outsider », comme on dit. Hein.
Voilà, et ben, peut-être parce que j'ai proposé un autre programme, justement.
Le Sénat autrement.
Oui, oui, et en fait, c'était pas tant que ça, le Sénat autrement, parce que quand je suis arrivée au Sénat, justement, j'avais l'impression d'être différente en me disant « je vais pas me retrouver parmi mes pairs », et ça a été vraiment une formidable surprise de découvrir à mes côtés beaucoup de maires ruraux avec le même profil, vraiment pour défendre des réalités de terrain.
Vous aviez une certaine appréhension de vous retrouver dans ce haut lieu de la démocratie ?
Ah non, j'étais terrorisée. C'était pas une appréhension. J'étais perdue et terrorisée. Déjà, géographiquement, il faut se retrouver dans ces bâtiments immenses. Et puis, j'ai eu peur de jamais pouvoir m'y ancrer. D'ailleurs, on a vu arriver, parce qu'en cours d'année, il y a des sénateurs qui arrivent quand il y a un décès ou une démission. Donc, il y a des arrivées au fil de l'eau. Et il est pas rare de voir arriver des collègues qui disent « Oh là là, je m'y retrouverai jamais, je ne me représenterai jamais là ». Et puis, au fil des mois, on sent qu'ils prennent goût, ils prennent leur marque. Et après, ils se représentent et puis ils prolongent l'aventure.
Après, ça, comment ça se passe ? Donc, vous rentrez au Sénat, vous vous présentez au secrétariat, t'imagines ?
Alors, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été élue le dimanche, donc le dimanche soir, j'ai eu plusieurs heures pour atterrir. D'abord, je ne croyais pas à ma propre élection.
Vous n'avez pas dormi, quoi ?
J'étais vraiment sur une autre planète. Et le lundi matin à 9h, j'ai eu un coup de fil personnel du président Larcher. Et j'ai été très touchée parce que, en fait, il connaissait mon père qui était vétérinaire à Nevers. D'accord. Les vétérinaires entre eux sont une petite confrérie et ils se connaissent. Oui. Alors, je veux vous dire qu'en sortant de la douche à 9h du matin, d'avoir le président Larcher au télé, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais.
C'est finalement agréable.
Oui. Et alors, bon, voilà, moi, j'attendais plus ou moins un peu scolairement une convocation ou quoi que ce soit. Et il m'a dit non, vous venez dès demain au Sénat. Voilà. Donc j'ai pris mon petit train à Cône et j'avoue que pendant tout ce trajet, je me suis dit je me souviendrai toujours de ce jour où j'y suis allée pour la première fois. Et j'ai été très pilotée et très aidée par Jean-Charles Rochard, président de la communauté de communes Brinon-Tanet-Corbigny, qui est adjoint aussi à Corbigny, qui lui-même a un passé d'attaché parlementaire et qui connaît parfaitement l'Assemblée, le Sénat, qui a été le collaborateur très proche de Simone Rignaud. Et donc Jean-Charles m'a récupéré à l'entrée. Et puis, bon, tout est prévu là-bas. Hein. Parce qu'on est une centaine de nouveaux. Donc, chaque nouveau est pris en charge par un huissier. C'est exactement ça. Et un parcours à l'intérieur du Sénat, parce qu'il y a tout un tas de démarches à faire. Il faut s'enregistrer auprès des affaires sociales. Enfin, bon, il y a plusieurs choses à faire.
Très administratif.
Très administratif, mais des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Par exemple, l'enregistrement de l'empreinte vocale. Je dis ça puisqu'on est à la radio. On fait un passage pour enregistrer l'empreinte vocale, parce qu'après, quand les séances sont enregistrées, il est possible qu'on voit pas très bien qui a parlé, mais au moins grâce à l'empreinte vocale, on peut lors des comptes rendus, on sait exactement à qui attribuer la prise de parole. Donc voilà, tout un tas de démarches, et puis on vous recense, on vous étiquette. Voilà, on est assez anéanti le soir même. Et après, les étapes suivantes, c'est les groupes politiques qui se constituent, l'élection des présidents de groupe, trouver sa place dans une commission, de faire part de ses desiderata. Après, bon, il nous avait fait quelques semaines pour avoir un bureau. Voilà. Et puis après, c'est lancé. Et la première fois qu'on arrive en séance dans l'hémicycle, on ne maîtrise pas tout. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je maîtrisais.
Psychologiquement,
Oui. Puis j'avais peur de ne pas lever la main au bon moment. Enfin. Et c'est un. J'ai passé dans les premières semaines beaucoup de temps dans l'hémicycle à observer. Il y a des collègues qui m'ont dit que c'était une bonne méthode pour vraiment comprendre comment se font les demandes de parole, les prises de parole, à quel moment on intervient, pourquoi, comment. Mais il faut vraiment beaucoup observer. Et puis après, c'est une gymnastique et des mécanismes comme les autres qu'on intègre assez rapidement. Et puis maintenant, 3 ans après, j'y ai vraiment pris goût.
Bien rodé.
Oui, j'ai pris goût.
Vous êtes habitué à passer à la télé sur Public Sénat. Alors, je vous ai vu au moins une fois.
On passe tous régulièrement. Mais j'ai une collègue qui m'avait dit il faut apprivoiser tout ça. C'est exactement ce qui se passe. Moi, comme la radio, la première fois qu'on a un micro devant le nez, on est
ici, on est en famille.
Oui, c'est vrai que c'est très chaleureux.
Ça n'a rien à voir.
Vous savez faire fondre la glace. Il n'y a pas de souci.
Donc, il a fallu que vous trouviez justement, vous parliez de permanence, mais c'est au Luxembourg tout ça.
Non, alors ma permanence est à Cône. Alors, oui, dans le palais, on m'a donné un premier bureau, mais je viens de déménager parce qu'il y a un tas de travaux là-bas. Donc, j'ai eu un premier bureau que j'avais choisi parce qu'il était au-dessus d'une crèche. J'avais le choix entre deux bureaux et j'ai choisi celui qui donnait au-dessus de la crèche en me disant quand j'aurai 5 minutes pour souffler, je pourrai aller regarder les petits bouts qui courent en dessous, ce qui me gardera en contact avec la vraie vie et me fera penser à mes petits-enfants.
Voilà. Pour l'avenir. Évidemment.
Voilà.
Donc, vous avez in situ dans la Nièvre, vous avez votre permanence à Cours.
Oui, voilà. Alors, au Luxembourg, on me fournit un bureau et puis dans la Nièvre, avec surtout Brigitte Galopin qui m'a énormément épaulée pour commencer, on a trouvé parfaitement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un local en plein centre de Cône, qui est très chaleureux et agréable, on sent chez nous, et on a plaisir à accueillir ceux qui passent prendre un café, on est parfaitement installés.
C'est pas rue Saint-Jacques, des fois.
Non, on est avenue de la gare.
Je suis pas tombé loin, il y a 100 mètres d'écart.
Oui, voilà. 200
mètres.
On est à côté de la boutique qui vend des chapeaux.
Ça s'appelle Au Sans Pareil, je crois.
Au Sans Pareil, voilà, ouais. Cherchez-en. Voilà, on est à côté du Sans Pareil. Et on est vraiment très très bien installés.
Et vous avez beaucoup de passages, vous avez des amis qui viennent vous voir, même, pourquoi pas des opposants.
Oui, j'ai des rendez-vous, j'ai des élus qui passent éventuellement. On veut que ce soit un lieu de vie. Voilà. Et puis, c'est plus pratique pour nous d'être... c'est un point de chute où on aime se retrouver. Donc, Brigitte, Frédéric, Christelle et puis Jean-Charles quand ils passent. Voilà.
Donc, ils sont sur le terrain, mais ils vont régulièrement à Paris. Ils font la navette aussi comme
Non, c'est vraiment moi qui fais la navette. C'est, notre base est à Cône. Alors oui, je comprends ce que vous voulez dire. La plupart des parlementaires ont aussi un collaborateur parisien. C'est 99% ont un attaché dans leur circonscription, un ou deux, enfin une équipe en circonscription, et une équipe sur Paris. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'équipe sur Paris. Donc, j'ai un tout petit bureau sur Paris où je suis seule. Je n'ai pas de collaborateur parisien.
Mais vous êtes en lien avec vos collaborateurs.
Voilà.
Nivernais, j'allais dire.
Écoutez, tout le monde parle de télétravail. On n'a pas besoin de...
Oui, voilà. Ça, oui, ça vous
permet. Et bon, sur Paris, à la limite, c'est plutôt Jean-Charles Rochard, quand il y est, à titre de juriste, qui m'apporte du conseil sur les textes de loi, les amendements, etc. Mais non, sinon, je travaille seule sur Paris.
Vous recevez des gens à votre permanence caunoise.
Oui.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?
Alors, il y a deux catégories. Soit il y a des élus qui ont des questions d'élus. Alors, en général, c'est appuyer un dossier pour demander une subvention. Ou alors, un blocage administratif pour lequel il faut un levier, il faut passer un coup de fil à une situation, parfois pour une bêtise, qui est totalement bloquée. Ça, c'est du côté des élus. Alors, du côté des administrés, c'est comme le maire, finalement. Il y a aussi des administrés qui ne savent pas trop vers qui se tourner, qui s'adressent directement à nous. Alors, quand il s'agit, pareil, d'un blocage administratif, maintenant, au bout de 3 ans, on finit par avoir un petit réseau, on peut essayer de passer un petit coup de fil en disant, est-ce que vous pouvez débloquer ce dossier, etc. Il faut avoir un réseau.
Surtout que parfois le verrou est simple à faire sauter, j'imagine.
Oui, voilà. Il suffit d'un petit aide bien. Je demande jamais de passe droit. Hein. C'est pas débloquer. Ouais. Par contre,
petit
en effet...
Pouce,
petit coup de pouce administratif, voilà. Mais par contre, en effet, les gens se trompent. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que, comme par le passé... Je pense que ça a dû exister, qu'on a les notables ont un genre de passe-droit, et j'ai eu compris des demandes, enfin ça arrive assez souvent, dans des divorces, où on m'appelle en me disant « voilà, on t'a bien connu, tatati, pour la garde des enfants, est-ce que tu pourrais appeler le juge ?» Et je réponds régulièrement « mais vous savez, heureusement que les politiques n'ont pas d'influence sur la justice ». Et ça, les gens croient qu'on s'arrange entre gens qui ont du pouvoir. Moi, je sais pas, dans le schéma... Écoutez, franchement, je mets un point d'honneur à justement ne jamais, jamais donner de passe-droit. On est vraiment toujours tous bien dans la même catégorie. Moi, je paye toutes mes infractions au code de la route. Malheureusement, je perds des points assez régulièrement.
Madame la sénatrice, à vous à faire des
affaires. Eh ben non, mais c'est pas bien du tout. Et chaque fois que je suis prise à 52 km/h au lieu de 50, je paye absolument mes contraventions. Et voilà, et il est hors de question qu'on donne des passe-droits aux gens, et vraiment ça...
Puis il y a l'indépendance de la justice, de toute façon. Donc,
oui, mais heureusement...
Mais
heureusement, et l'indépendance de l'administration et de tout le monde. Oui, alors après, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'il y a aussi des gens qui m'appellent pour prendre rendez-vous avec mon frère, qui est médecin. Et ça, je ris toujours un petit peu en disant, écoutez, si je commence à donner des rendez-vous, je vais drôlement compliquer...
Vous n'êtes pas secrétaire de...
Surtout, j'ai compliqué le travail de sa secrétaire. Voilà, donc ça, c'était pour l'anecdote.
Alors
voilà.
Donc vous n'avez pas de parcours purement politique,
vous
avez dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu...
Alors ça dépend ce qu'on appelle être politique.
Oui,
parce que si au
encarté,
sens...
Encarté par exemple, quelconque.
Alors j'ai été encartée très brièvement chez les Républicains pendant 3 mois. C'était une aventure qui m'a pas convaincue. Bon, ouais. J'étais un petit peu... On m'avait conseillé de le faire et ça s'est arrêté là. J'ai acheté une carte et ça s'est arrêté là au bout de 3 mois.
C'était pas votre truc.
Mais je vais être je vais être très claire, voilà, oui, c'est ça. Par contre, le passé politique, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle politique, parce qu'au sens noble du terme, on est au service de ses administrés, et donc, oui, j'ai été parfaitement politique.
Au sens étymologique du mot.
Voilà, quand j'ai été maire à Neuvy, au contraire, j'ai fait de la politique matin, midi, soir, et avec passion, c'est de la belle politique.
Oui, mais au niveau local, c'est...
Oui, alors voilà, pas de la politique politicienne, mais d'ailleurs, sincèrement, 99% des maires, en tout cas dans les petites communes, font ce travail de politique de terrain qui n'est pas rattaché à une sensibilité politique marquée. D'ailleurs, autour de la table du conseil municipal, il y a toutes les sensibilités, et c'est très bien, c'est comme ça qu'on représente nos administrés, et qu'on prend des décisions qui correspondent à l'ensemble des administrés. Mais par contre, on n'en fait pas état, on n'en fait jamais état à la table d'un conseil municipal.
Selon les communes.
Ça dépend de la taille. Non, mais ça dépend de la taille. Voilà. Mais une commune rurale dans la Nièvre, on parle jamais très rarement de politique autour de la table. Et quand on fait réparer le toit de l'école, c'est ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni du centre, ni même écolo. On cherche juste à faire pour le mieux.
Vous êtes au service des concitoyens.
Voilà, ensemble.
Ça, je pense qu'on va peut-être faire une première pause musicale.
Très bien.
Virgule sonore classique. Donc, si vous avez choisi.
Eh bien, j'ai repensé à une chanson qui me plaît beaucoup en ce moment. Bon, faut pas aller trop loin, mais quand même, elle me touche. C'est celle de Gauvin Serre qui parle de ces écoles qu'on ferme. Désespoir qu'on peut ressentir dans une cour d'école quand on est élu et qu'on nous ferme nos écoles. Je sais qu'il faut voir les choses autrement. Je sais qu'il faut élargir notre manière de voir les choses. Mais il n'empêche, même s'il y a d'autres solutions qui seront mises en place, il n'empêche pour les gens de fermer l'école. C'est terrible. Hein. Moi, j'aime bien cette chanson.
Ben voilà une première pause musicale dédiée aux écoles.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
À cœur ouvert, la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de la souriante sénatrice.
Nadia... Ça ne se voit pas à la radio.
Ça se voit pas. Bah justement, faut
merci
le dire.
De le dire.
Dites-moi, Nadia, le Sénat, ça sert toujours à quelque chose? Parce qu'autrefois, il y a certains généraux qui voulaient le supprimer dans les années 60, je crois, les années 60.
Ça ne lui a pas réussi, d'ailleurs.
Non.
Je vous remercie très sincèrement de me poser la question, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Beaucoup de gens se disent, bon, finalement, le Sénat, c'est un vieux truc poussiéreux, désuet, qui ne sert pas à grand-chose, avec des vieilles personnes là-dedans qui ne font que manger, puisque la plupart des reportages qu'on peut voir à la télé à charge focalisent sur notre alimentation. Alors, sincèrement, moi, je suis de plus en plus convaincue de l'importance de ce que peut apporter le Sénat. Donc déjà, dans la construction des textes de loi, on a souvent l'impression que un texte, par exemple, qui serait porté par le gouvernement, qui part de l'Assemblée, qui va au Sénat, qui revient à l'Assemblée.
La fameuse navette,
que les apports du Sénat ne servent pas à grand-chose, puisqu'en fin de compte, l'Assemblée a le dernier mot. Voilà ce qu'on dit en général. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que un texte, c'est un gros paquet, mais qui est constitué de plein de petites lignes et de plein d'articles et de plein d'amendements. Et il faut savoir que 60% des amendements du Sénat sont inscrits dans la loi. Et ces amendements sont portés vraiment par des élus qui sont maires ou anciens maires et qui portent vraiment les préoccupations des élus de terrain. Donc, quand on nous fait remonter des sujets qui bloquent ou qui fâchent ou qui sont vitaux parfois pour les territoires, on arrive à les inscrire dans la loi. Par contre, à la fin, le texte finit, bien souvent, c'est un texte qui émane du gouvernement et le gouvernement finit par le faire voter en général. Bon, donc on peut dire le gouvernement a fait ce qu'il voulait, il a eu le dernier mot. Mais non, parce que le texte qui est finalement voté est bien un texte qui est un équilibre entre les demandes de l'Assemblée et les demandes du Sénat. D'ailleurs, l'étape finale de la navette, c'est ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. On a 7 députés, 7 sénateurs qui maîtrisent parfaitement le sujet, qui s'enferment, je dirais quelque part. Ça peut durer très longtemps. Et qu'un point d'équilibre soit trouvé. Alors certes, parfois, et bien souvent, il faut renoncer puisque à certains points, puisque c'est une côte mal taillée. Mais nous, on a toujours intérêt à avoir une commission mixte paritaire conclusive. Parce qu'on peut pas, des fois, il faut renoncer à certains aspects qui nous tenaient à cœur, mais il vaut mieux accepter une côte mal taillée plutôt que de claquer la porte des négociations, et auquel cas c'est le texte de l'Assemblée qui s'applique et le Sénat perd ses apports. On est constamment dans un travail de diplomatie, de négociation. Constamment, nous travaillons et nous travaillons beaucoup pour intégrer et arriver à glisser dans le texte. Alors par contre, c'est pas facile. Là où les gens se trompent, c'est pas que le Sénat sert à rien, c'est que le Sénat travaille énormément pour arriver, et c'est très difficile, à faire ses apports dans la loi. Et si le président de Gaulle a voulu supprimer le Sénat, c'est bien parce qu'on est très souvent un petit caillou dans la chaussure.
Mais en ce moment, c'est Gérard Larcher qui est le caillou dans la chaussure.
Sommes un caillou. Voilà. Mais c'est très bien. En fait, le caillou, c'est simplement parce qu'on ne peut pas considérer que les décisions soient prises sans l'apport et la contribution permanente des territoires et de tout ce qu'on fait remonter, et toute la matière qu'on apporte et qu'on fait remonter, et qu'on maîtrise un peu, parce que comme on a été au plus près de ce qui se passe dans les communes et dans les villes de France, et voilà, il faut absolument qu'on apporte cette contribution. Donc voilà, non. Nous servons, je pense, nous avons vraiment un apport tout à fait indispensable. Mais voilà, à quel prix? On mouille la chemise.
Il fallait que ce soit dit. Depuis 3 ans, vous avez proposé des projets de loi. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu pompeux ce que je dis.
Alors, un projet de loi, il est proposé par le gouvernement.
Oui, ça, oui.
Alors, les parlementaires font des propositions de loi.
Propositions de loi.
Et
voilà,
non, je n'ai pas fait de proposition de loi, et je me suis même un petit peu interdit d'en faire, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de lois et que je me contente de travailler, enfin je trouve que c'est déjà bien de travailler en profondeur ceux qui nous sont proposés. Je pense qu'un texte de loi, c'est intéressant quand il est dense, quand il est complet, qu'on peut bien l'amender, etc. Il y a vraiment parfois, et il faut éviter ça, des propositions de loi qui sont creuses, qui sont de l'affichage.
Bon, ça existe,
qui consiste en un article unique. Alors quand l'article unique apporte quelque chose, tant mieux, mais parfois, enfin je vais vous dire honnêtement, quand on a légiféré sur la fessée, moi je vais pas siéger, parce que je trouve que c'est ridicule qu'on perd notre temps, qu'on attire l'attention des gens sur un texte de peu d'intérêt, parce que le texte s'intitulait, je crois, contre les violences éducatives ordinaires. Quand on ouvre le texte, c'est un article unique qui consiste à dire que quand les gens se marient, il faut rajouter une petite ligne pour leur dire de ne pas frapper leurs enfants. Sincèrement, c'est sans intérêt. Hein.
Comme on dit, on a eu notre fête étant gamin, puis on est toujours là.
Non, mais après, pour ou contre, c'est même pas encore la question. Mais ça ne fait pas l'objet de faire débattre tout le monde dans l'hémicycle. Oui, et puis les violences au sein de la famille sont dramatiques et il faut absolument travailler contre ça. Mais de fait de pondre un texte de loi comme ça où on dit juste que le jour du mariage on va leur dire une ligne de plus, c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Là c'est pas le bon outil.
Ceux qui se marient pas, ils l'ont pas. Donc
oui, ceux qui se marient pas l'ont pas. Et puis les gens qui se retrouvent tellement en difficulté qu'ils en arrivent à peut-être avoir des violences au sein de la famille, c'est pas de leur avoir dit ça le jour du mariage qui va changer quoi que ce soit. Donc voilà, donc je voulais dire qu'il y a des textes d'un bout à l'autre, il y a des textes très intéressants, très profonds, il y a des textes qui sont juste de l'affichage. Et donc entre les deux, moi j'ai pas eu besoin de déposer une proposition de loi. Et à vrai dire, j'ai pas prévu de le faire parce que la loi est déjà très très bavarde. Hein, donc je pense qu'à mon avis, il faut pas en rajouter.
Comme on dit à Neuville, nul n'est censé ignorer la Loire.
Oui, à la Loire. Ah bah, je ne connaissais même pas.
Comme un conte d'ailleurs.
Je ne connaissais même pas.
Donc depuis 3 ans, vous avez pu faire aboutir un dossier qui vous tient à cœur particulièrement.
Alors moi, j'ai fait aboutir des amendements. Par contre, dont on a parlé un petit peu. Entre élus parce qu'on avait par exemple une collègue du sud du département qui était très bloquée depuis des années avec un agent des écoles, on lui a fermé son école, elle se retrouvait avec l'agent sur les bras, après l'agent a retrouvé du travail dans une autre commune, mais la loi disait qu'elle devait continuer à lui payer les charges pour son emploi, donc dans une toute petite commune avec un tout petit budget, c'était considéré comme quelque chose de très injuste, et du coup cette élue à chaque année lors de l'assemblée générale des maires de la Nièvre disait essayez de m'aider, on n'y arrivait pas. Et j'ai vu passer un texte de réforme de fonction publique territoriale. Et puis on a mis l'amendement qu'il fallait au bon endroit. Et le gouvernement n'était pas trop favorable, mais on a réussi à faire passer l'amendement. Et le problème est réglé pour cet élu. Donc voilà, je préfère faire une sorte de travail de dentelle. Bon, c'était un petit exemple parce qu'il y en a eu d'autres. Je préfère faire ce petit travail de dentelle qui permet de régler des vrais problèmes et des vrais sujets plutôt que de faire de l'affichage.
Oui,
voilà, bon, c'était un exemple. Voilà.
Vous avez d'autres projets qui, dans les 3 ans qui vous restent, entre guillemets,
oui.
Ça sera peut-être conduit, on n'en sait rien.
Oui.
Vous avez un gros projet, Nivernais ou Dévaudion.
Oui. Alors, en ce qui concerne les sujets, ça peut être aussi au sein d'une commission d'enquête ou d'un travail parlementaire. Donc là, récemment, j'avais eu un gros sujet qui me tenait très à cœur. C'était un travail sur l'état des ponts en France. C'est une mission d'information dont on a beaucoup parlé. J'étais dans ces travaux et c'est vraiment un sujet d'élu. Maintenant, si je devais travailler à 2 sujets qui me semblent très importants dans la Nièvre, il y a la désertification vétérinaire en milieu rural. Bon, c'est mes attaches vétérinaires, mais c'est un vrai sujet au niveau national. Et j'aimerais vraiment pouvoir porter ce dossier. Et deuxièmement, il y a un autre sujet concernant les ruines dans les communes, les maisons à l'état d'abandon. Les maires s'arrachent les cheveux parce que bien souvent, ils sont dans des impasses techniques où on ne trouve pas les héritiers, on n'arrive pas à gérer le truc. Et c'est un vrai danger parce que les gosses jouent là-dedans et c'est vraiment... je voudrais qu'on ait plus de moyens, que les élus puissent agir plus. Voilà. Rapidement, c'est les sujets qui me viennent en tête. Et puis après, tous les sujets de désertification aussi médicale, évidemment, qu'on puisse travailler à ça. Mais ça, c'est pas forcément législatif. Bon, j'ai été très présente dans le projet de loi santé la dernière fois. J'ai mis des amendements aussi pour que les internes aient des obligations de faire des stages, des remplacements ou passent du temps en milieu rural, en zone sous-dotée. Voilà. Il y a des amendements à porter. Dans le projet de loi de finances, les projets de loi de finances qui ont été votés pendant la période de confinement, j'étais là tout le temps aussi. Et bien que n'étant pas de la commission des finances, je vais siéger aussi pendant tout le projet de loi de finances là, qui s'annonce pour l'automne parce qu'au cas par cas, on a des amendements et on les porte pour nos territoires.
D'accord. Donc vous faites partie de plusieurs commissions, si j'ai bien compris.
Alors, non, moi je suis à la commission aménagement du territoire.
Un vaste programme, comme
oui,
vous disiez justement.
Voilà. Mais par contre, il y a aussi des missions d'information ponctuellement, voilà, donc intégrer des groupes de travail, voilà. Et je fais aussi partie là, d'un groupe de travail très très intéressant sur l'empreinte carbone du numérique. Voilà, donc c'est pareil, on a des auditions très intéressantes. Donc voilà des sujets je porte. Et puis évidemment, tous les sujets de transition agricole. Je suis dans le groupe d'études élevage, le groupe d'études vignes et vins, le groupe d'études... Enfin, tous ceux qui concernent un petit peu nos territoires, j'essaye d'être dedans. Et puis là, on a un gros sujet avec l'agriculture et l'élevage. Hein. Il faut vraiment porter ces sujets-là.
Ben oui, parce que là... c'est inquiétant. Puis la météo s'en mêle en plus.
Là, c'est le désespoir. C'est vraiment.
Il y a des gars qui vont se mettre la clé sous la porte.
Voilà. Outre les sujets que je peux voir à moyen ou long terme, le sujet urgent là, c'est l'élevage.
Surtout en région Corbigny, entre autres, ils ont.
Voilà.
Alors. Corbigny en général.
Oui, c'est pareil. J'ai oublié de vous dire, je siège au Comité national de l'eau. Donc au niveau national, il y a 2 sénateurs qui siègent. Donc là, on a des gros sujets sur la gestion de l'eau et pouvoir continuer à, donner plus de souplesse aux agriculteurs pour qu'ils puissent gérer l'eau. Malgré les consignes de continuité écologique, la doctrine nationale, c'est on laisse couler l'eau. Mais si on veut que l'agriculture survive, il faut redonner de la souplesse aux agriculteurs pour qu'ils puissent faire des retenues d'eau. Sinon, toutes les bêtes vont crever de soif. Là, il y a plus. Voilà. Donc, il faut travailler à ça. Ça, c'est une urgence absolue. Et au niveau de l'élevage, donc les éleveurs nous ont expliqué qu'il faut les aider pour permettre la remontée des cours, qui négocient mieux leur production. Donc, il faut trouver des solutions pour que les cours remontent.
Vous parliez d'empreinte carbone tout à l'heure concernant le numérique, mais au niveau des transports, c'est encore plus flagrant.
Oui.
Fermer des lignes ferroviaires qui transportaient des trains entier de céréales.
Oui.
Un train, c'est 50 camions.
Oui. Alors
est-ce que ça tient la route, ça ?
Alors, on est tout à fait d'accord. On a beaucoup travaillé cette année au fret ferroviaire. Et c'est vraiment une solution qu'il faut soutenir. Et je dois dire que sur ce dossier, on a fait un très gros travail de partenariat avec les chargeurs qui se sont vraiment impliqués. Et la région. On peut parfois critiquer la région sur la SNCF, les trains pas à l'heure, etc. Mais sur le fret ferroviaire,
qui est forcément responsable.
Non. Mais sur le fret ferroviaire, on a vraiment la région qui s'est impliquée et on a eu des réunions très très importantes qui ont abouti à des solutions, à des grosses sommes qui sont investies pour sauver des petites lignes, pour justement pouvoir sauver le fret ferroviaire.
Parce que ici à Clamecy, on a le cas. Clamecy était, vous avez entendu parler.
Mais il faut qu'on y travaille encore. Mais je partage tout
ils
à fait.
Ils sont en train de déséquiper les postes à Genève. Puis au bout d'un moment, ils vont retirer la voie, quoi.
Écoutez...
J'espère que non. Nous autres, ferrofis, nous comptons sur vous.
Oui, non, mais ça, c'est vous avez parfaitement raison.
Je suis pas objectif, mais bon.
Non, mais vous avez parfaitement raison.
Voilà, donc on va faire la deuxième virgule sonore, avec un deuxième titre dont vous avez cogité.
Alors, entre-temps, j'ai cogité. Là, c'est un petit plaisir personnel. Il y a une chanson, mais je ne sais plus l'auteur, qui s'appelle Nadiajda. En russe, ça veut dire espérance. J'ai la chance d'avoir un prénom qui veut dire espérance. Voilà. Et j'ai une nature assez optimiste, alors voilà. Ça se fait pas de mettre une chanson pour soi. Bon, allez, j'en profite. L'occasion est donnée, j'en profite.
Il n'y a pas de raison. allons-y, espérons.
Espérance.
К берегу причала.
cœur ouvert, la troisième partie, avec Nadia Sologoub, la sénatrice de la Nièvre.
Absolument.
Vous parcourez toute la Nièvre, comme
oui.
Patrick Joly le fait aussi.
Voilà, on n'a pas de circonscription, contrairement aux députés.
Mmh. Voilà, c'est ça. Donc vous parliez tout à l'heure, vous nous parliez tout à l'heure d'élevage.
Alors,
les gars qui rament comme c'est pas vrai pour trouver du foin, pour trouver de la paille,
oui.
pour trouver de l'eau, etc. Enfin bon,
voilà.
Entre autres, mais il y a d'autres catégories qui sont.
Oui, voilà, je voulais bien préciser que effectivement, on est dans une situation d'urgence parce que bon, là, je fais pas mal de kilomètres et on voit dans les prés les bêtes qui souffrent. Mais bon, évidemment, c'est pas pour autant que j'oublie tous les autres secteurs en difficulté, les secteurs agricoles, mais aussi tous les autres, tous ceux qui sont en plein dans une période extrêmement difficile. Il y a aussi des gens qui perdent leur emploi, etc. Mmh. Donc voilà, je voulais bien être claire sur le fait que je n'allais pas privilégier une catégorie par rapport à une autre et que je resterais bien à l'écoute de tout le monde. Voilà. Il y a juste cette urgence-là quand on voit des bêtes en difficulté.
On va passer maintenant au rituel de l'émission qui s'appelle le rituel qui s'appelle Si vous étiez.
Oui. Alors là, vous avez fait marcher le suspense, si bien que je me demande vraiment ce que vous allez me.
Je vous ai collé une sacrée pression.
Aïe. Hein.
Nadia Sologoub, si vous étiez un arbre. Ben, c'est tout bête quand même.
Un arbre.
Ouais.
Ah, alors c'est difficile parce qu'en même temps, très enraciné, les fleurs, c'est peut-être pas la peine. Alors si, je sais, je serais un bouleau. Je serai un bouleau, bon, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais cet arbre compte beaucoup dans mes origines familiales. Le bouleau représente beaucoup pour les Russes. Bon, mais j'ai des racines russes. Voilà, mon père était russe. Alors, déjà, quand j'ai grandi, j'étais petite fille, devant la fenêtre de ma chambre, il y avait un bouleau, donc c'était mon arbre. Ma sœur était très attachée à un saule. Voilà, moi c'était un bouleau. Et voilà, cet arbre signifie beaucoup. C'est un arbre vraiment de la campagne russe.
Les taïga, j'allais dire.
Les paysans russes, voilà, utilisaient l'écorce de bouleau pour faire beaucoup de choses. Ils se faisaient des chaussures en écorce de bouleau, etc. Et sur la tombe de mon père, on a mis une présentation avec du bouleau. Et je.
C'est tout à fait symbolique. Oui.
Et je fais encadrer pour mettre chez moi une petite écorce de bouleau. Je veux qu'il y en ait un petit morceau dans ma maison. Donc voilà, je pense que le bouleau, c'est un arbre qui est en même temps fin et résistant et voilà, ça représente.
C'est du bois blanc comme on dit.
Oui, voilà, mais.
Non, c'est toutes les couleurs.
Voilà, bon, ouais. Mais voilà, j'aime bien le boulot.
Si vous étiez un instrument de musique.
Alors
on
là,
on va parler de vos loisirs, effectivement.
Eh ben, j'ai fait beaucoup de piano quand j'étais jeune et quand j'ai un petit moment, j'ai plaisir. Bon, j'ai perdu beaucoup. Hein, je suis pas une bonne musicienne, mais de me mettre devant mon piano et jouer un peu de Chopin, ça me fait beaucoup de bien.
Puis ça vous, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
Oui, oh, si j'ai beaucoup perdu, ça, si faut travailler beaucoup pour être un bon musicien. J'ai pas du tout l'ambition d'être une bonne musicienne, mais voilà, jouer.
Vous avez un piano chez vous, peut-être.
Oui. Alors j'ai deux pianos.
Un synthétiseur,
peut-être. J'ai deux pianos chez moi parce que j'ai le piano de mon arrière-grand-père, qui était un vieux russe qui a été accordeur de piano. Donc ce piano est un symbole aussi, un souvenir familial. Je pense que je le transmettrai à un de mes fils qui est musicien dans son cœur, voilà.
Ah bah voilà,
voilà, donc qui a la fibre musicien. Voilà. Et puis j'ai mon piano droit d'étude sur lequel j'ai appris le piano et sur lequel je joue un petit peu quand j'ai le temps.
C'est votre piano de chevet, c'est le piano droit.
C'est mon piano d'étude, voilà. Bon, donc, je me remets.
Vous y installez avec plaisir régulièrement.
Oui.
Pour décompresser.
Et ça me fait plaisir parce que ce piano est au centre de notre salle, enfin dans notre salle à vivre, et tous les petits enfants qui passent ont plaisir à le faire vivre un peu, à pianoter 2-3 notes. Donc il est très vivant.
Faut pas laisser rouiller les cordes.
Ah non, voilà. Ça, il joue. Il est là. Il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille.
Ils ont raison. Si vous étiez une couleur.
Une
Puisque
couleur,
vous n'en avez pas au Sénat, vous n'avez pas de couleur, si j'ai bien compris.
Non, oui, c'est vrai, une couleur, la couleur de l'espérance, alors peut-être le vert, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais bon, Morvan, vert, verdure, nature, voilà.
Toujours
bon.
L'espérance.
L'espérance.
Toujours votre prénom.
Voilà.
Vous êtes aussi gastronome, j'imagine.
Ah, gourmande.
Donc vous avez, gourmande, non, bah, oui. Je dis gastronome, c'est moins péjoratif.
Ouais.
Et vous avez un plat préféré?
Alors ça, c'est compliqué parce que j'aime vraiment tout. Alors c'est non, c'est
une petite andouillette de Neuvy-sur-Loire, par exemple.
Andouillette, j'adore. Fromage, j'adore. Voilà, non, j'aime vraiment tout. Si je me fais vraiment un petit plaisir, c'est vraiment fromage. Fromage, hein, c'est
fromage de chèvre, de Sancerre, par exemple.
Tout,
pas chauvin.
Tous. Dans la France, on est tellement gâtés.
Ouais,
voilà.
C'est vrai. Vous avez un dessert préféré parce que vous me parliez de gourmandise. Un dessert, c'est le top de la gourmandise.
Bah, le gâteau aux pommes de ma mamie. C'était vraiment... C'est ma mémé faisait un gâteau aux pommes génial que j'ai pas réussi à refaire.
Vous avez la recette
dans mon livre de cuisine, mais je... Voilà,
au fond de votre mémoire, même.
Oui. Après, il y a un gâteau que j'ai fait à mes enfants tout le temps. Je faisais toujours le même. Ça s'appelait la visitandine, voilà. Et après, dans les autres recettes que je peux citer, il y a une autre recette familiale qui s'appelle le caviar d'aubergine. Alors là, c'était ma grand-mère russe qui faisait le caviar d'aubergine, voilà.
Donc, on va finir par la gastronomie. Vous avez un cru préféré?
Ah bah, le coteau du Génois.
Je m'adresse à Karine.
Non, mais en général, dans la Nièvre, on a vraiment des vins qui gagnent à être connus. Alors, le Pouilly, naturellement, hein, franchement. Non, mais super. Ils sont vraiment excellents, ils sont appréciés partout. Mais on a des vins de notoriété un petit peu moins importante, qui sont des vins de niche, un peu, qui gagnent vraiment à être connus. Alors, je parle du Tannay, je parle du Coteau Charitois. Pendant ma campagne des sénatoriales, on a mis un point d'honneur à prendre des vins des uns et les amener chez les autres. On a amené du Tannay à Pouilly, on a emmené du Rius à Cône. Et il faut qu'on chacun apprécie les productions des autres, mais on a vraiment des bons petits vins.
C'est vrai que les vignobles nivernais, entre Cône et Clamcy, ne serait-ce que ceux-là, il n'y a pas assez de liens, je pense, entre les professionnels.
Eh ben, on va en faire.
C'est un avis personnel que je partage, comme
dirais. Et à mes vœux, je fais des vœux aux élus, j'invite les élus en fin d'année. Et j'avais fait un petit plateau de dégustation de terrine du Morvan, de fromage de Rouy, et tous nos vins, et voilà, et donc c'était très apprécié.
Un petit cocorico, ça fait pas de mal, hein.
Ben voilà. Voilà.
Donc, on va peut-être quand même conclure, parce que...
Oui, je suis super. Non, je suis très bavarde.
Non, c'est pas ça, mais vous avez du boulot.
Oui.
C'est vrai. Je vais vous rappeler à l'ordre, quand même. Alors, qui on embrasse avant de partir? Vous avez un salut particulier à apporter?
Une petite dédicace.
Une petite dédicace.
Bon, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, bon, voilà, moi, je tiens quand même à remercier mon compagnon parce qu'il est extrêmement patient. Il est très souvent tout seul.
Je compatis.
Comme il est retraité de l'agriculture, les retraités de l'agriculture font exactement la même chose que quand ils étaient en activité, donc il est très occupé parce qu'il faut aider les jeunes et c'est bien normal. Donc lui, et puis vraiment un mot aussi parce que j'ai des enfants et des petits-enfants qui sont très patients parce que je suis vraiment une très mauvaise grand-mère. Et voilà, qu'ils veuillent bien me pardonner parce que c'est terrible d'avoir une mamie passionnée mais qui n'est pas là justement pour faire les gâteaux aux pommes et qui n'est pas là pour être à la sortie de l'école. Donc voilà. Je les remercie pour leur compréhension. C'est eux qui me laissent vivre ma passion en fait. Là, je fais le choix de ne pas être une grand-mère. Hein. J'ai été une maman très présente et je suis une grand-mère très absente.
Péjoratif le trait quand même.
Ah non, je suis très absente. Non, je suis vraiment inexistante comme grand-mère, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Ben, alors, vos enfants ne sont pas forcément dans la région, j'imagine, vos petits-enfants.
Si. On a des petits-enfants du côté de mon compagnon qui habitent le même hameau que nous. Ils sont à quelques mètres et je ne les vois jamais.
Ah oui, d'accord.
C'est très, très pas bien. Et du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de demander encore une dédicace, mais je mets un point d'honneur à dire qu'avant, professionnellement, j'étais mère au foyer et je voudrais saluer toutes les femmes qui se consacrent, qui ont la chance, parce qu'on ne peut pas toujours. Voilà. Mais toutes celles qui le font et toutes celles aussi qui, en travaillant, sont maman parce que c'est super difficile. Je vois comment rament mes filles et belles-filles.
Ça sera la conclusion de ce À cœur ouvert spécial sénatrice.
Et maman et mamie et mère. Et voilà, je vous ai tout livré.
Et ancienne mère et maillère.
Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous savez tout.
Et bien, Nadia Sologoub, merci d'être passée par la rue Porte d'Auxerre à Clamcy.
Ben, je reviendrai parce qu'on se sent chez soi ici. Le café est très bon et l'accueil est très sympathique. J'en profite pour vous dire qu'on a vraiment besoin de nos radios locales. Il faut les écouter et il faut les laisser vivre.
Il faut les soutenir, madame la sénatrice.
Oui, mais vous savez que je suis là et on a déjà échangé sur des dossiers, mais il faut continuer parce que ça aussi, c'est nos territoires. C'est vraiment, vous êtes la voix de nos territoires.
Ben merci. Puis à bientôt sur le terrain.
Et ben voilà. À bientôt.
Merci.
Merci.
C'était Les richesses de notre territoire sur Flotteur FM.